Chapitre 52. Kara sur les talons, Nietzsche franchit la grande double porte ornée de symboles sophistiqués. Dans l'imposante salle, l'orage qui se déchaînait dehors illuminait de manière presque stroboscopique les rayonnages qui couvraient tous les murs. L'immense fenêtre brisée lors de l'attaque de la bête de sang avait été réparée, pas parfaitement, mais assez, pouvait-on espérer, pour que la grande bibliothèque puisse jouer son rôle de sas d'isolation magique. De manière plus prosaïque, la nouvelle fenêtre n'était pas parfaitement étanche, et les tentures vert foncé s'imbibaient d'eau chaque fois que le vent soufflait dans la mauvaise direction. Lorsqu'elle vit ce qui flottait au-dessus de la grande table, à l'endroit où elle avait elle-même lévité, Nietzsche espéra que la fenêtre défectueuse ne laisserait pas passer quelque chose de bien plus dangereux qu'un peu d'eau. Dès qu'il vit la magicienne, Zed courut vers elle et la prit par les épaules. « L'as-tu trouvé ? » demanda-t-il, le désespoir audible dans sa voix. « Il est vivant, n'est-ce pas ? Il va bien. Zed, il a survécu à l'attaque dans la Slif. C'est ma seule certitude. » Rika surveillait le puits quand la créature de vif argent était revenue sans crier gare. Et non contente de créer ainsi la surprise, la Slif avait étonné tout son monde en se montrant inhabituellement bavarde. Elle avait presque tout raconté sur ce qui était arrivé à Richard. Ce n'était pas une trahison puisque son maître, le sourcier en personne, lui avait demandé d'informer ses amis. Toujours soucieuse de lui plaire, elle s'était empressée d'obéir. Hélas, la Slif était secrète de nature, sans parler de son goût du mystère, et il avait été impossible de lui arracher des réponses précises sur la condition et la localisation actuelle de Richard. Selon Zed, la créature magique n'était pas perverse, simplement elle restait fidèle à ce que ses pères avaient voulu. Comme tout être pensant, elle ne pouvait pas se refaire et il aurait été malhonnête de le lui reprocher. Le vieux sorcier avait détecté sur la Slif les traces typiques d'une voyante. En toute logique, il devait s'agir de Six. Nul ne savait ce que cette femme mijotait, mais au moins Richard lui avait échappé pour un temps.
« Où est-il ? » insista Zed. « La Slif t'a-t-elle conduite là où elle l'a déposée ?»«
Oui. »
Nietzsche regarda brièvement Kara, puis elle posa une main sur le bras du vieil homme.
« Après nous avoir montré ce lieu, la Slif nous a dit que Richard était allé dans le royaume des flammes nuit. Il nous a fallu marcher assez longtemps pour nous y rendre aussi. »
« Les flammes nuit ?»
répéta Zed, très surpris.
« Oui, mais Richard n'était plus là. »«
Certes, mais nous savons au moins qu'il est vivant. Apparemment, il agit de son propre chef, pas sous l'influence d'une voyante. Que vous ont dit les flammes nuit ?»«
J'ai regretté que vous ne puissiez pas voyager dans la Slif, Zed. Les flammes nuit vous en auraient sans doute raconté davantage. » Kara et moi n'avons pas pu aller plus loin que la forêt fantôme.
La forêt fantôme ? De quoi parles-tu ?
Eh bien, c'est difficile à dire, d'autant plus que je ne suis pas experte en matière de nature. Il y a une grande forêt de chênes, mais tous ces arbres sont morts.
Les chênes sont morts ? Tu es sûr ? Allons, c'est impossible.
Pourtant, je crois que c'est vrai. Richard m'a appris à quoi ressemble un chêne. Cette forêt en est pleine, mais ils sont tous morts.
Et il y avait des ossements dans cette forêt ?
Oui, dit Kara. Des squelettes étaient éparpillés un peu partout entre les troncs.
Fiche très foutre !
Jura le sorcier.
C'est grave ?
Demanda Nietzsche.
Mais vous avez parlé aux flammes nuit ?
Tam, j'ai parlé avec Tam.
Zed se gratta pensivement le menton.
« Tam, inconnu au bataillon. »
« Il y avait aussi Jas, » précisa Nietzsche.
Le vieil homme réfléchit quelques instants.
« Navré, mais ça ne me dit rien. »
« Jas m'a dit que Richard était à la recherche d'une femme que les flammes nuées auraient dû connaître. »«
Kalan, bien entendu. »
« C'est ce que nous avons déduit. » dit Kara.
Pourquoi Richard est-il allé voir les flammes nuit pour trouver son épouse ?
La question du sorcier ne s'adressait à personne en particulier, comme s'il réfléchissait tout haut. Mais Nietzsche tenta d'apporter quelques éléments de réponse.
La Slif ne nous a rien dit à ce sujet. Richard n'a pas dû lui donner des instructions assez précises et Il n'est pas du genre à prendre des initiatives. Comme vous l'avez souligné, c'est dans sa nature. Les flammes nuits n'ont pas été plus loquaces, considérant que la visite de Richard avait des motivations privées qu'il aurait été discourtois de nous révéler.
« C'est bien gentil, tout ça, »
marmonna Zed.
« Mais il nous faut en savoir un peu plus. Richard revenait ici. Il a perdu son don en chemin, sans doute à cause de Six, et il est allé voir les flammes nuits. Qu'a-t-il retiré de cette visite ?»«
Désolé, Zed, mais je n'en sais rien, » soupira Nietzsche.
« Nous n'avons rien appris de plus. Richard n'est pas revenu vers la Slif, mais comme il ne peut plus voyager en elle, ça n'a rien d'étonnant. La créature ne sait peut-être pas grand-chose de plus que ce qu'elle nous a dit. Richard est parti à pied, peut-on supposer. Et il se dirige sans doute vers Aydindril. Après tout, c'était sa destination d'origine avant l'attaque dans la Slif. En chemin, il est allé voir les flammes nuits, mais c'est peut-être simplement parce qu'il était près de leur royaume. Qui peut savoir ? Tout n'est pas négatif, Zed. Au moins, nous savons que Richard est vivant. C'est déjà beau, non ? Le connaissant, il ne tardera pas à se trouver un cheval, et il devrait arriver ici dans quelques jours.
« Tu as raison, mon enfant, » dit Zed.
Il prit le bras de Nietzsche et le serra gentiment. Le type de geste qu'aurait fait Richard dans une situation similaire. Rien de spectaculaire, mais de quoi redonner le moral à quelqu'un qui doutait.
« Les flammes nuits ne vous ont pas laissé entrer sur leur territoire, dans la forêt de pins géants ?»«
C'est ça. Nous n'avons vu que Tam et Jas, c'est tout. »«
En un sens, c'est logique. Les flammes nuits sont jalouses de leur intimité, et elles n'accueillent pas à bras ouverts les visiteurs, mais dans de pareilles circonstances, je m'étonne quand même que... »«
Les flammes nuits agonisent. »«
Pardon ?»«
Les flammes nuits se meurent. » C'est pour ça que nous n'avons pas pu entrer. En des temps de grande détresse et d'inquiétude, il est normal de ne pas avoir envie de voir des étrangers.
« Par les esprits du bien, »
soupira Zed.
« Richard avait raison. »«
De quoi parlez-vous ? »
demanda Nietzsche.
« Il avait raison à quel sujet ?»«
Les chênes sont morts, et ils étaient les protecteurs du royaume des flammes nuits, qui sont aussi en voie d'extinction. » Les événements s'enchaînent inexorablement. Richard nous a expliqué pourquoi dans la pièce où nous sommes. Et maintenant, ce que tu me racontes, comme si j'avais besoin de raisons supplémentaires de le croire.
Des raisons supplémentaires ? Zed, je ne comprends rien à ce que vous dites.
Le vieil homme désigna le construct qui flottait au-dessus de la table.
Regarde.
Zed. « C'est une toile de vérification du sort d'oubli, et on dirait bien une vérification intérieure. »«
C'est ça. »«
Je n'avais pas besoin d'une confirmation. »« Zed, que mijotez-vous pour l'amour du ciel ?»«
J'ai réussi à activer une simulation de la toile intérieure, un construct duquel tu n'as pas besoin d'être prisonnière. »« Ce n'est pas exactement la réplique de la première toile, mais pour ce que je cherche, c'est largement satisfaisant. »
Nietzsche fut surprise par l'exploit du vieil homme, et très perturbé de revoir le construct qui avait failli lui coûter la vie. Mais il y avait encore plus troublant que ça.
« Pourquoi y a-t-il deux toiles ? Le sort d'oubli est unique, si je ne m'abuse, alors pourquoi ce doublon ?»
Zed eut un sourire malicieux.
« C'est qu'il y a un truc, mon enfant. Richard affirme que les carillons ont arpenté le monde des vivants. Si c'est bien le cas... Leur présence a dû contaminer la magie. Pourtant, aucun de nous ne s'en est aperçu. C'est la force des infestations de ce type. Elles érodent la vigilance de leurs victimes en abusant leur sens. Je voulais voir si Richard avait raison.
Richard Rall a toujours raison.
Zed ponctua cette déclaration enflammée d'un haussement d'épaule.
Peut-être, mais moi, il me faut des preuves. Pour être franc, je n'ai rien compris à son histoire d'emblème. « J'ai foi en lui, comme toi, mais je ne comprends pas sa manière de lire des symboles et d'en tirer des conclusions définitives. Il me fallait une preuve tangible. »
Les bras croisés, Nietzsche observa un moment le double construct.
« Je vous comprends, il faut l'avouer. J'ai confiance en Richard et tout ce qu'il dit se tient, mais parfois je me sens perdu comme à l'époque de mon noviciat, lorsqu'il y avait une interrogation écrite sur un cours que j'avais raté. Quand Richard... »
Nietzsche se tut et décroisa les bras.
Z, dit-elle, ces deux constructs ne sont pas identiques.
Je sais bien, mon enfant.
Nietzsche approcha des toiles de vérification et les observa plus attentivement.
Celui-là est la chaîne de flammes, c'est évident. L'autre n'est pas un doublon, mais carrément une image miroir du véritable sortilège.
Bien vu.
Mais c'est impossible.
Je le croyais aussi, avant de me rappeler un ouvrage intitulé « Le livre de l'inversion et du double ».
Vous savez où est ce volume ?
S'étonna Nietzsche.
Eh bien, j'ai pu dénicher un exemplaire.
Un exemplaire ? Que voulez-vous dire ?
Gêné par les questions de la magicienne de plus en plus soupçonneuse, le vieil homme se racla la gorge et éluda le problème.
L'important, c'est que je me sois souvenu d'avoir lu ce traité il y a des dizaines d'années. À l'époque, ce texte qui exposait des techniques de duplication des sorts m'a paru sans aucun intérêt. Pourquoi diantre fabriquer le double d'un sortilège ? Mais il n'y avait pas que ça. Ce grimoire expliquait aussi comment inverser le sortilège qu'on venait de dupliquer. Du pur délire. Voilà ce que je me suis dit avant d'enfouir cette lecture dans ma mémoire. À quoi bon garder un souvenir d'une procédure absurde dont je n'aurais sûrement jamais besoin ?
Le vieil homme brandit un index squelettique.
Alors que je réfléchissais à la contamination laissée par les carillons et aux moyens de vérifier la thèse de Richard, je me suis souvenu du livre et j'ai enfin compris pourquoi un sorcier pouvait vouloir dupliquer et inverser un construct.
Nietzsche dut s'avouer qu'elle était larguée.
Z, vous avez peut-être compris, mais moi, eh bien, je nage.
Z désigna de nouveau les deux constructs.
Tout est là. Regarde bien. Celui-ci est l'original, la réplique de celui qui t'emprisonnait, mais sans certains de ses éléments les plus complexes et les plus instables. Pour ce que nous voulons en faire, il n'aurait pas été utile. L'autre est le double parfait du premier, mais inversé, comme l'image qu'on voit dans un miroir.
J'avais vu, dit Nietzsche, mais je ne comprends toujours pas à quoi rime cette façon d'analyser un sortilège.
« Les défauts !»
s'exclama Z, théâtral.
« Les défauts ? Que... »
Soudain, Nietzsche comprit.
« Quand on inverse un sort, les défauts ne suivent pas le mouvement. »«
C'est ça !»
lança Z avec un clin d'œil pour sa brillante élève.
« Les défauts ne s'inversent pas. C'est impossible. Le construct est une représentation du sort. » Un emblème, comme dirait Richard. Un véritable sortilège ne pourrait pas être inversé, ça tombe sous le sens. Mais les défauts suivent la même règle, parce qu'ils sont réels. Une magie ancrée dans le monde, pas figée dans des grimoires à demi oubliés.
À mesure qu'il approfondissait le sujet, Z gagnait en sérieux et ressemblait de moins en moins à un vieil excentrique.
Quand un sortilège est activé, il porte en lui son ou ses défauts. En somme, ils sont intégrés à sa structure même. Le construct dupliqué est affligé du même défaut, mais lors de l'inversion, celui-ci n'est pas concerné parce qu'il est bien réel et pas potentiel comme l'est tout sortilège pas encore lancé et toute représentation de ce sortilège. Lors de notre malheureuse expérience, n'oublie pas que c'est la contamination qui a failli te tuer.
Nietzsche sonda le regard du vieux sorcier. Puis elle s'intéressa de nouveau aux deux constructs. L'un était l'image inversée de l'autre. Si Z disait vrai, il devait exister une ligne ou un ensemble de lignes qui restait parfaitement identique à son modèle. Soudain, elle vit.
« Là !»
s'exclama-t-elle.
« Cette partie est identique dans les deux constructs. Ce n'est pas un reflet contrairement au reste. Tout est à l'envers, sauf ce détail-là.
« Encore bravo !» exulta Z. « Maintenant, nous connaissons l'utilité de ce grimoire apparemment farfelu. Localiser des défauts qui seraient sinon invisibles et indétectables. »
Nietzsche dévisagea le vieil homme et le vit soudain sous un nouveau jour. Comme tous les pratiquants de la magie, elle avait étudié ce grimoire sans comprendre à quoi il était censé servir. Les érudits en débattaient sans fin, bien entendu, mais aucun n'avait pu déterminer de façon satisfaisante l'utilité de cet étrange traité de magie. De Gerlas, l'ouvrage avait été classé dans la catégorie des antiques curiosités parfaitement inutiles. En cours, on l'avait présenté ainsi à Nietzsche. Une relique qui ne servait à rien mais restait respectable à cause de son grand âge. Comme Richard, Z ne négligeait jamais la plus infime parcelle de savoir. Tout ce qui lui passait devant les yeux restait gravé dans son esprit, au cas où il en aurait besoin un jour. Quand il devait résoudre une énigme, il commençait par puiser dans sa bibliothèque personnelle dont l'index était constamment remis à jour. Le grand-père et le petit-fils fonctionnaient exactement de la même manière. Toute connaissance acquise devenait une arme potentielle. En procédant ainsi, on parvenait très souvent à trouver des solutions auxquelles personne n'aurait pensé. Beaucoup d'esprits étroits, et il n'en manquait pas dans l'univers de la magie, jugeaient cette façon de penser excentrique, voire radicalement hérétique. Nietzsche ne partageait plus cette opinion. Les vraies réponses résultaient toujours de l'application rigoureuse de la logique et de la raison. L'intuition paraissait irrationnelle parce qu'elle était un processus de pensée inconscient. À force de travail, certaines personnes se dotaient de réflexes qui leur permettaient d'aller plus loin et plus vite que les autres. Un sourcier de vérité devait avoir cette qualité pour accomplir convenablement sa mission. Richard la détenait et c'était une des choses qui la fascinait en lui. Éternel étudiant, mais en dehors des sentiers académiques, il réussissait toujours à résoudre des équations complexes en usant de moyens d'une intuitive simplicité. Z se pencha et Nietzsche l'imita.
« Regarde bien, tu vois ce que c'est ?»«
La partie qui n'est pas inversée ?»«
Non, je n'en ai aucune idée. »«
C'est la contamination laissée par les carillons. Une araignée tapie dans la toile de la magie. »
C'est la preuve que Richard a raison, n'est-ce pas?
Ce sacré garçon ne s'est pas trompé, confirma Z. Ne me demande pas comment il a fait, mais il a tout compris. Sous la forme que nous observons en ce moment, je reconnais la contamination comme j'identifierais de la rouille sur un morceau de fer. Richard a lu cela dans le langage des lignes et il avait raison. Le sort d'oubli est contaminé. La source de cette altération étant bel et bien les carillons. Nous avons devant nous le mécanisme qui érode et détruit la magie. Bien entendu, la chaîne de flammes n'est pas le seul sort infecté.
C'est pour ça que les flammes nuit agonisent?
J'ai bien peur que oui. Les chaînes qui défendent leur territoire étaient porteurs d'une magie protectrice. Leur mort et la probable disparition des flammes nuit constituent une coïncidence des plus suspectes.
Nietzsche approcha de la grande fenêtre et regarda les éclairs qui zébraient le ciel. À travers le verre opaque, on eût dit des tentacules d'ombre cherchant à s'emparer d'une proie invisible.
« Les créatures magiques meurent, exactement comme l'affirmait Richard. »
Comme si la mort elle-même rôdait autour d'elle, Nietzsche frissonna de la tête aux pieds. Richard lui manquait terriblement, et cette absence la rendait vulnérable comme si elle risquait elle aussi de s'éteindre s'il ne revenait pas bientôt. Pas parce qu'elle était aussi une créature magique, mais plus simplement parce qu'elle avait besoin de lui.
« Zed, pensez-vous qu'il avait raison sur toute la ligne? Les dragons ont-ils vraiment existé un jour? Les avons-nous oubliés? Croyez-vous que notre monde perde sa substance pour appartenir peu à peu au domaine de la légende ?»
« Je n'en sais rien, mon enfant, » soupira le premier sorcier. « J'aimerais penser que mon brave garçon se trompe sur ce point et quelques autres, mais il y a longtemps que je ne parie plus contre lui dans ce genre de situation. »
Nietzsche eut l'ombre d'un sourire. Instruite par l'expérience, elle avait également appris à ne jamais miser contre ce cheval-là.